Avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir de parler de l'offertoire, il convient d'expliquer un peu ce dont il s'agit, car ce thème a fait et continue de faire couler beaucoup d'encre. Tout d'abord, il faut comprendre que nous entrons par l'offertoire dans le cœur de la messe. Je vous le rappelle, la messe est par essence le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ. La messe est donc un sacrifice et l'offertoire, l'oblation de la victime, fait partie intégrante de l'acte sacrificiel, comme j'aimerais vous le montrer ce soir. Pour commencer, il faut savoir tout ce qui a pu être reproché à l'offertoire. Luther et les réformés disaient que l'offertoire insistait trop sur le côté propitiatoire. Tous les réformateurs, a écrit le pasteur luthérien Reed, rejetèrent l'offertoire romain et son idée d'une offrande pour les péchés faite par le prêtre au lieu d'une offrande de reconnaissance faite par le peuple. Luther, avec sa conviction que le sacrement est un don de Dieu à l'homme et non une offrande de l'homme à Dieu, appelait l'offertoire romain une abomination où l'on entend et sent partout l'oblation. Plus récemment, le mouvement liturgique disait que l'offertoire était un doublon du canon, appelé petit canon vers la fin du Moyen-Âge, et que donc il n'avait aucune utilité, étant donné qu'il ne faisait que répéter ce que le canon dirait plus tard. C'est à ces deux éléments que je voudrais aujourd'hui répondre, pas de manière exhaustive malheureusement, car cela reste de petits sermons et non pas une conférence. Il nous faut partir tout d'abord de la notion de sacrifice. Saint Thomas conçoit l'offertoire comme l'offrande d'une matière consacrée. L'offrande y est comprise comme partie intégrante du sacrifice eucharistique, avec la consécration et la réception ou destruction de la victime. Trois parties, donc, dans le sacrifice: l'offertoire, l'oblation, la consécration et la destruction. Si l'on prend un peu de hauteur, on voit que l'oblation consiste en deux choses. La louange du peuple, concrètement dans le chant de l'offertoire, à la messe, par lequel est signifiée la joie de ceux qui offrent, et la prière du prêtre qui prie pour que l'oblation du peuple soit acceptée, agréée par Dieu. Même si le geste d'offrande n'est déjà plus collectif, puisque c'est le prêtre qui agit seul à l'autel, saint Thomas rappelle donc que c'est bien toute l'Église qui continue, par les mains et la prière du prêtre, à offrir la matière du sacrifice. Or, pour saint Thomas, l'offrande de la matière à consacrer est déjà sacrificielle. L'offertoire comme sacrifice. Le sacrifice est un acte naturel de la vertu de religion, et de tous les actes extérieurs de cette vertu, il est l'acte le plus parfait. Dans le sacrifice, l'homme religieux offre à Dieu, premier principe, auteur de tous les biens, des réalités sensibles à sa disposition afin de lui témoigner par un acte librement expressif, l'offrande invisible et intérieure de tout son être. En d'autres termes, le rite extérieur y signifie le sacrifice intérieur. L'homme lui-même, consacré à Dieu par tout son être et du fait même de sa création, est la première et principale victime de tout sacrifice. à tel point que l'acte extérieur n'a qu'une valeur de symbole, la victime offerte en sa place n'ayant d'autre fonction que de représenter l'homme dans le don intérieur qu'il fait de lui-même à Dieu. Donc l'offrande liée au sacrifice est celle d'une matière qui acquiert un statut particulier, matière offerte librement à Dieu, sur laquelle est accompli un rite sacré qui l'approprie à l'usage exclusif de Dieu. Ainsi, l'homme offre, et la consécration qui surviendra plus tard consiste dans cette appropriation de la part de Dieu de tout ce qui lui a été offert. Or, c'est ici que rentre un autre élément, le péché. Car bien que l'homme soit tenu en justice d'offrir un sacrifice à Dieu, à cause du péché originel, son sacrifice est de soi sans valeur aux yeux de Dieu. Et cela, tant que l'humanité demeure dans l'état de déchéance. Si dans l'Ancien Testament, on peut voir Dieu commander qu'on lui offre des sacrifices, ce n'est pas que de tels sacrifices puissent rétablir l'harmonie brisée par le péché. En eux-mêmes, ces sacrifices ne possèdent aucune valeur absolue et l'efficacité qu'ils contiennent ne l'est qu'en relation et en raison du sacrifice du Christ qu'il figure et auquel il se réfère. Pour rétablir l'harmonie et restaurer l'humanité, notre Seigneur, vrai homme et vrai Dieu, devait donc être la victime de son propre sacrifice. Et si tant est que le sacrifice consiste pour l'homme à faire honneur à Dieu des dons qu'il a reçus, Jésus victime est assurément ce que l'humanité pouvait offrir de plus précieux, puisqu'il incarne en lui toutes les perfections des hommes singulièrement ennoblies par leur subsistance dans la personne du Verbe. Le sacrifice du Christ, qui est bien cette hostie immaculée, possède donc une valeur absolue et transcendante. C'est pourquoi tous les sacrifices qui ont été ou seront jamais offerts doivent, sous peine de nullité, de n'être pas agréés par Dieu, se référer au sacrifice rédempteur par lequel est restitué à l'homme la possibilité d'offrir un sacrifice qui soit agréé par Dieu. Ainsi, comme le disait un célèbre dominicain, le sacrifice de l'homme pleurant ses péchés innombrables rencontre le sacrifice du Fils de l'homme. Deux sacrifices, celui de l'offertoire, qui est le sacrifice de l'homme, et celui de la consécration, qui est le sacrifice divin. Offrant sa vie pour les péchés des hommes, le Christ inclut toutes les offrandes humaines, forcément imparfaites, dans son offrande. Hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam.